modèles et les talents congolais dans le magazine Étoile. Des hommes et des femmes au parcours exceptionnel. Trouvez une source d'inspiration à travers ces personnes connues et ces citoyens lambda sur Radio Capi. Étoile, de la découverte à l'inspiration. Radio Capi vous propose des hommes et des femmes d'exception. Suivez-les dans le magazine Étoile tout le samedi à 14h05 et 19h05, puis en rediffusion le lundi à 15h30, heure de Kinshasa.
Merci de votre fidélité au magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Le climat est en train de changer à l'échelle mondiale et la RDC n'est pas du tout épargnée par ces phénomènes. Les impacts de ces changements affectent tous les êtres vivants, y compris les espèces végétales. Le changement climatique modifie également notre environnement et nos modes de vie. On a intérêt à anticiper sur les conséquences liées aux effets du changement climatique, indiquent les spécialistes. Que faut-il faire exactement pour s'adapter aux effets du changement climatique? Nous en parlons dans ce studio avec M. André Djamba. Nous rappelons qu'il est le coordonnateur du Fonds vert pour le climat en RDC une fois de plus. Bonjour.
Bonjour.
Donc, nous allons commencer. Que devons-nous comprendre par les concepts composés changement climatique?
Il faut seulement comprendre que l'humain, l'homme à qui Dieu a confié cette terre, ne l'a pas gérée comme il faut. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous vivons les conséquences de certains comportements humains qui sont à l'origine de ce changement que nous observons au niveau des températures, au niveau des espèces, comme vous l'avez dit, là, écologiques, au niveau des marins, au niveau des eaux, à tous les niveaux. Et on estime qu'aujourd'hui, les changements climatiques, même si les deux thèses s'affrontent sur le plan international, et une thèse qui soutient l'homme étant l'origine, mais une autre thèse qui soutient autrement en disant que ce n'est que l'évolution qui est en train d'amener ces changements-là, parce que l'homme a toujours vécu avec la nature, mais nous qui sommes sur le terrain, et qui sont en train de faire des projets de changement climatique, nous voyons que la plupart des conséquences, ou des causes plutôt, sont des causes dues à l'homme.
Donc l'homme est en grande partie responsable de ces changements climatiques.
Oui, oui, l'homme est à l'origine, à la base de ça.
Est-ce que c'est réellement une réalité, hein? Est-ce que c'est une réalité ou une fiction? Parce qu'il y a de ceux-là aussi qui ne croient pas du tout à ces changements climatiques.
Nécessairement. Nécessairement, il y a de ceux-là qui pensent que et ce sont des phénomènes qui existent et que l'homme peut-être ne contrôle pas les vents, mais plutôt, lorsqu'on voit le problème de l'ozone, on comprend que ce n'est pas un phénomène totalement naturel. Si l'ozone, la couche d'ozone commence à subir des effets, cela signifie que c'est l'homme qui a amené la pollution à ce niveau-là. Donc, on peut être sceptique au changement climatique. Mais ce qui est vrai, j'ai continué toujours à dire aux gens, c'est lorsqu'on voit la nature, on voit qu'il y a un changement. Alors, que ce soit d'origine humaine ou d'origine naturelle, nous devons chercher à trouver des solutions.
Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples concrets qui démontrent à suffisance qu'on est en train de subir ces phénomènes de changement climatique?
Oui, aujourd'hui, je commence par les effondrements des glaces, qui est un phénomène aujourd'hui, peut-être nous on ne sait pas voir ça, on suit ça à la télévision. Mais
la fonte des neiges.
Oui, oui, parce qu'aujourd'hui, si vous allez dans certains grands centres américains, comme il y a un centre avec lequel je travaille, basé à Boston, et ils font des recherches en Antarctique, et mais chaque fois ils reviennent avec des cris d'alarme, c'est-à-dire quoi? L'homme n'arrive plus à gérer, n'a pas géré les ressources de façon rationnelle. Et là où l'homme pouvait se limiter, mais l'homme est allé au-delà de ça. Je prends un autre exemple, c'est des espèces qui sont en train de disparaître aujourd'hui dans certains coins
du monde.
C'est l'effet de quoi? C'est l'homme qui a l'origine de ça. Et je prends l'exemple de la RDC. Là c'est concret ici. Allez un peu au niveau des lacs Tanganyika. Aujourd'hui, les poissons ne sont plus aux abords. Et si aujourd'hui, on a même des problèmes avec les pays voisins où on tue les pêcheurs congolais, parce qu'ils vont dans la profondeur à la recherche des poissons.
Au-delà de notre limite.
Effectivement. Parce qu'il n'y a plus de ressources de poissons au niveau des bords. Pourquoi on a transformé nos rivières, nos lacs en des poubelles?
À des poubelles, voilà. Il y a aussi l'habitat.
L'habitat, et de suite. Donc, l'homme, pour moi, j'ai toujours soutenu cette thèse de l'homme qui est à la base de ça.
En dehors de l'homme, quels sont les autres facteurs qui ont entraîné ces changements climatiques? Est-ce qu'il y a que l'homme qui est principalement responsable de cette modification?
Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire des animaux, non. Vous savez que nos ancêtres ont géré les forêts de façon durable. Nos ancêtres, comment ils l'ont fait? Si on coupe ceci, on repoise. Mais regarde ce qui se passe même chez nous, ici. Regarde ce qui se passe, vous avez vu les images satellitaires en Afrique, comment il y a dans certains pays où on
des reboisements à grande échelle
et puis on ne reboise pas.
On ne respecte pas les cycles de régénération naturelle.
Effectivement, on ne veut même pas payer des taxes de reboisement. Donc là, ce ne sont pas des animaux, c'est l'homme qui est à la base de ça. L'animal, vous savez que si vous... j'ai suivi un documentaire sur les Gabons, où ils justifiaient leur capacité, leur couverture forestière en disant que la nature les aide. Effectivement, il y a des coins, par exemple chez nous au niveau de la RDC, il y a des coins où l'homme n'arrive pas, mais qui font ce cycle-là. La nature se régénère elle-même. Mais dès que l'homme commence à entrer là, je vous dis que ces espaces-là vont disparaître. Également.
Monsieur Djamba, vous êtes le coordonnateur du Fonds Vert en RDC. Oui. Quelles sont les actions que vous menez au fait? C'est quoi les Fonds Verts et quelles sont les grandes actions que vous menez dans le cadre de la lutte contre le changement climatique?
Oui, je commencerai par dire que le Fonds Vert a été créé par la volonté de deux groupes. Il y a les pays développés et les pays en développement. Et je suis peut-être pas radical, mais je pense que nous allons vers une situation que j'estime qui ne va pas profiter aux pays en développement. Parce que les pays qui se sont développés, c'est comme s'ils ont tracé la ligne rouge pour que les autres n'arrivent pas là où ils sont. Et
les pays du Sud seront appelés à préserver leurs
forêts
au profit
des autres qui ont déjà atteint le niveau de développement. Alors que eux, lorsqu'ils se sont développés, ils ont influencé nos forêts, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, je ne suis pas contre les mécanismes internationaux. Moi-même, j'évolue à l'international, à la Banque
mondiale. Il a été créé pour quel but, les fonds verts pour le climat?
Les fonds verts ont été créés pour que les pays en développement bénéficier d'une enveloppe annuelle, je vous dis ça, de 100 milliards de dollars.
100 milliards de dollars pour des projets de lutte contre le changement climatique.
Alors, si vous voyez même la situation, nous sommes à la deuxième période du Fonds vert pour le climat. La première période, on a pu, je crois que les pays ont contribué à la hauteur de presque 11 à 12 milliards de dollars. Mais tout en disant que les États-Unis n'ont pas donné les 3 milliards promis, ils ont donné 1,5. Et le dernier chèque n'est pas arrivé parce que l'autre avait bloqué, l'actuelle administration américaine.
Donald Trump
avait bloqué. Alors, imaginez maintenant que les pays en développement, dans leur projet, ils estimaient que le montant serait important de 100 milliards. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on est en deuxième capitalisation, on a atteint 9 milliards. Ça, c'est la dernière... Le pledge, c'est-à-dire que les pays qui sont sérieusement engagés de donner 9
milliards. Ils ont cotisé à la hauteur des 9 milliards.
Effectivement. Et ce qui fait que dans les 9 milliards-là, nous entamons une deuxième période. En bref, pour la première période, là, je vais faire un petit résumé. Vous verrez que beaucoup de pays qui ont eu le financement, l'Afrique centrale est derrière.
Revenons sur le cas de la RDC. Ouais. Vous êtes le coordonnateur national du Fonds vert pour le climat. J'ai été convié à un séminaire atelier à l'UNIKI, non, sur la procédure de soumission des demandes pour d'octroi d'appui financier pour réaliser le projet dans le cadre de la conservation de la nature. Il paraît que c'est vraiment difficile pour arriver à arracher un décaissement chez vous.
Oui, oui. Non, il ne faut pas parler sur moi. Moi, j'anime la coordination nationale.
Je vous considère comme...
comme étant quelqu'un du Fond Vert. Merci beaucoup. Mais effectivement, lorsqu'on a créé, chaque pays a le droit de créer sa coordination. Mais le problème, c'est ceci. Les Fonds Verts pour le climat, comme vous dites là, les projets climatiques sont exigeants. Très exigeants. Pourquoi? Parce que les projets climatiques ne sont pas des projets agricoles. Les projets climatiques ne sont pas seulement des projets énergétiques. Ça peut vous surprendre. Parce que tout projet énergétique n'est pas un projet climatique. Parce qu'un projet climatique, c'est tout projet qui, un, a deux objectifs. Soit se réduire les gaz à effet de serre, soit réduire la vulnérabilité des populations due au changement climatique. Si ces deux objectifs-là ne sont pas réunis, le projet n'est pas éligible. Ça, c'est notre rôle. C'est pour cela que nous tenons de temps en temps des séminaires pour expliquer aux gens. Alors, dans le cas de notre pays, je rentre maintenant sur le cas de la RDC. Depuis que les fonds verts existent, nous avons pu approuver deux grands programmes. Un programme de 89 millions sur les énergies renouvelables, réseautage vert, qui sera peut-être lancé l'année prochaine. C'est déjà approuvé, donc ça sera lancé l'année prochaine. Oui, ça sera à Isiro, Bumba et Lissala.
D'ailleurs, en parlant, nous avons notre deuxième invité qui s'appelle M. Idriss Nfouka. Il est au téléphone. M. Idriss, bonjour.
Bonjour, Radio Capi.
Vous êtes acteur dans le domaine de l'environnement et spécialiste en énergie nouvelle et renouvelable. Est-ce que le changement climatique est une réalité?
Évidemment, le changement climatique, c'est une réalité et qu'il faudrait vraiment agir ou réagir par rapport à cette situation. Et les cas, par exemple, de notre pays, il y a beaucoup de gens qui pensent que le changement climatique, c'est une fiction ou ça, c'est quelque chose qui ne concerne pas la RDC. Et pourtant, nous avons déjà les indicateurs sur terrain et c'est vraiment une réalité.
Vous travaillez dans le domaine des énergies renouvelables ici en RDC, dans le cadre de l'installation des panneaux voltaïques. Nous avons en face de nous M. André Djamba qui est coordonnateur du Fonds Vert pour le climat. Et là, il vient de nous annoncer que l'année prochaine, il y a un projet qui sera lancé dans ces créneaux-là. Est-ce que vous pensez déjà élaborer un projet d'appui au niveau du Fonds Vert et est-ce que vous avez déjà tenté de les rapprocher pour voir dans quelle mesure collaborer dans le cadre des actions que vous menez sur terrain?
Évidemment, nous, en tant qu'acteurs dans le secteur des énergies renouvelables, nous avons déjà un projet que nous sommes en train de vouloir contacter directement les fonds verts, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'atténuation du gaz à effet de serre sans pour autant parler des énergies propres. Mais également, on ne peut pas aussi réduire la problématique de la déforestation sans pour autant proposer aux populations qui vivent dans ces milieux l'utilisation des énergies renouvelables. Et donc, la question la plus importante maintenant qu'il faudrait se poser, comment s'y prendre? Et à mon avis, je pense que tous les acteurs qui sont dans ces domaines ou qui travaillent dans les secteurs de l'environnement, énergie renouvelable, et doivent se consolider les efforts et pour pouvoir aider notre pays à faire face à ces enjeux climatiques. Mais nous constatons quelque chose, les gens travaillent en ordre dispersé. Et c'est ce qui n'est pas normal. Je viens de suivre les coordonnateurs qui viennent de donner des chiffres et on a constaté évidemment que la question de la résolution des enjeux climatiques, aujourd'hui, elle est plus théorique, elle est plus dans les chiffres. C'est chaque année qu'on a des chiffres. Donc voilà, il y a tel organisme international a disponibilisé autant de millions de dollars, mais lorsqu'on entre sur terrain, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de l'impact. Et moi, je pense que les coordonnateurs du Fonds Vert qui est sur place, et nous encourageons tout ce que vous avez comme projet et tout, et nous souhaitons que cela soit vraiment une réalité dans les jours à venir Et c'est de cette façon-là que nous allons aider notre pays à faire face vis-à-vis de ces enjeux climatiques.
Monsieur Driss, vous qui êtes sur terrain dans la promotion des énergies renouvelables, est-ce que la population croit en cela, que réellement le climat, il y a les phénomènes des changements climatiques qui doivent également adopter des comportements qui ne nuisent pas trop à l'environnement?
Écoutez, monsieur, je vous dis que c'est une réalité et on est en contact direct avec des populations. Vous allez voir que ces gens sont conscients. Aujourd'hui, nous venons de faire une campagne de sensibilisation sur la lutte contre les énergies fossiles. Parce qu'on s'est rendu compte, par exemple, dans la province du Bandundu, où presque toutes les familles utilisent les petits groupes électrogènes qu'on appelle Tiger. Et ces groupes sont en train de générer les gaz carboniques, voilà, qui est nuisible à la santé. Et ces gaz carboniques, sa durée de vie dans l'atmosphère est de 100 ans. Et donc, vous comprenez à quel niveau nos populations sont soumises à des risques. Et donc, la population est prête pour l'accès aux énergies propres. Mais il se pose un problème des moyens. Il faudrait que les Congolais puissent s'y mettre. Et aussi, il faut revoir la nouvelle loi de l'électricité qui parle que de l'hydroélectricité, même si l'hydroélectricité fait partie des énergies renouvelables. Donc, oui, ça, c'est une question qui concerne tout le monde. Donc, on ne peut pas seulement sensibiliser la population, mais il faudrait que tous les acteurs qui sont là, les organismes internationaux, l'État congolais, doit revoir beaucoup de choses et pour que la population soit desservie à une énergie propre. Et je dois vous dire que si aujourd'hui on n'accède pas à ces énergies, ça sera très compliqué de parler même du développement de l'arrière-pays du Congo.
Monsieur Driss, je rappelle que vous êtes spécialiste en énergie renouvelable. Restez en ligne, nous allons revenir à vous. Le temps pour nous de donner la parole à nos premiers intervenants. Si vous êtes intéressé par ces sujets, n'hésitez pas à nous appeler pour intervenir en direct au numéro 099-706-63-94, au numéro 081-890-63-94.
Leur quotidien, préoccupations et ambitions, c'est dans 100% jeunes. L'orientation scolaire et académique, l'entrepreneuriat et l'emploi, une émission des jeunes, pour les jeunes et avec les jeunes. Tous les vendredis à 9h15 et 20h30, le lundi à 13h30.
Monsieur Kachai, vous nous appelez de Kanyoka. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour Monsieur Tati Mapoukou et bonjour à Monsieur l'invité.
Nous parlons des effets du changement climatique. Quelles sont les questions que vous avez à poser à notre invité?
Merci beaucoup Monsieur Tati de la parole que vous m'octroyez. J'ai quelques observations à faire et des questions à soumettre à l'appréciation de l'invité. Monsieur Tati, vous allez remarquer que la situation des changements climatiques que nous connaissons aujourd'hui est tributaire de la coupe sans respect réservée à la forêt des arbres. De la coupe des arbres avec lesquels nous vivons, sans reboiser même, parce que les gens se permettent de couper pour faire de la braise, pour faire du n'importe quoi, je ne sais pas. Et puis, ils ne reboisent pas, ils laissent comme ça, sans que les gens de l'environnement, les agents de l'environnement ne passent pour commencer à contrôler tout ça. C'est ainsi que, par exemple, au Kasaï central, à Kananga, nous connaissons un problème sérieux de la chaleur. Et ces jours, il pleut abondamment et les gens sont en train de passer la vie en total dénouement.
Kachai, nous savons qu'il existe le service national de reboisement. Est-ce que localement, les bois qui sont coupés ne sont pas reboisés par ces services de l'État? Parce qu'il y a des exploitants artisanaux qui payent également des taxes pour les reboisements. Ce ne sont pas les exploitants artisanaux qui sont censés reboiser, c'est plutôt à l'État congolais de le faire. Il y a un service mis en place pour ce travail.
Oui, Monsieur Tati, ce n'est pas toujours à l'État congolais, nous ne pouvons pas incriminer l'État. Mais les agents de l'État qui sont chargés de contrôler les reboisements, Monsieur Tati, ils ne les font pas. Ah, s'ils le faisaient, les gens ne pouvaient pas se permettre, par leur propre maison, de commencer à couper les arbres sans s'est référé, par exemple, à l'autorisation de la coupe du bois. Mmh. Alors, ça serait une destruction méchante. Quand il y a destruction méchante et qu'il n'y a pas des infractions poursuivies par, dans ce sens-là, et pour cela décourager ceux qui le font, mmh. en tout cas, les autres vont toujours continuer à le faire parce qu'il n'y a pas la dissuasion.
Donc, vous voulez dire que ceux qui exploitent les bois, les gens qui coupent les arbres, là, ils les font peut-être sans permis des coupes des bois?
Par exemple, dans mon village, à Kanyoka, où je vous appelle Monsieur Tati, mmh. les gens coupent à tort et au travers parce qu'ils se disent, que nous sommes propriétaires. Alors, chacun dans sa parcelle est un roi. Il ne peut pas subir les injonctions venant de part et d'autre. Ils coupent, ils font du n'importe quoi. Par exemple, vous allez trouver quelqu'un qui coupe un avocatier, qui coupe un mendier. Alors, vous lui demandez est-ce que vous avez le permis du service de
l'environnement,
vous mmh. autorisant, vous permettant
de couper cet arbre.
Il vous dit, bon, est-ce qu'il faut aller payer l'argent pour couper l'arbre dont on est lui-même titulaire, propriétaire? Quand quand j'avais planté l'arbre, est-ce que j'avais eu l'autorisation? Maintenant, pour couper, il faut qu'il y ait l'autorisation. Vous comprenez un peu la baisse d'esprit que les gens développent dans le milieu où nous vivons.
Merci de votre constat. Maintenant, quelle est la question? Oui.
Je voulais demander.
Allez-y rapidement.
Je voulais demander à l'invité. Oui. Parce que l'État ne doit pas toujours être impliqué même dans le milieu où nous vivons. Il n'appartient pas à l'État de venir commencer à sarcler nos parcelles, à sarcler nos milieux. C'est l'homme. Alors, qu'est-ce faire? Parce qu'il a parlé de la sensibilisation. Mais la sensibilisation, celle ne suffit pas. Il faut aussi décourager les actes qui sont déjà incriminés, qui sont posés par les habitants dans leur milieu. Qu'est-ce faire maintenant pour créer la dissuasion dans nos milieux, pour décourager ceux-là qui coupent sans reboiser les arbres?
Merci beaucoup, Kachaï. Je rappelle que vous intervenez depuis la ville de Kanyoka. Nous sommes là dans les Kasaï centrales. Allons cette fois-ci à Luisa, dans la même contrée, pour donner la parole à Marcel Didier. Bonjour, monsieur Marcel Didier.
Bonjour, monsieur Tati. Bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio Kapi. C'est comme vous l'avez dit, c'est Marcel Didier à Luisa. Je voudrais abonder dans le même sens que monsieur Kachaï, qui venait de dire que la grande responsabilité incombe à l'homme par rapport à ces changements climatiques. Comment j'ai revu pour dire que c'est l'homme? L'homme, c'est-à-dire l'État, qui n'est pas l'État bien entendu, mais les agents de l'État, mmh. et aussi la population elle-même qui ne s'approprie pas de la question de déboisement. Pourquoi je dis ça? Vous allez voir qu'un agent de l'État qui vient, par exemple, dans le grille parcelle d'un individu pour lui dire pourquoi vous avez déboisé sans reboiser, et celui-là va dire que je suis autoritaire, je suis propriétaire de ma parcelle ou de mon champ, et que vous n'avez pas le droit, bien entendu, de venir me contredire. Si alors cela n'est pas le cas, l'agent qui vient pour donner les injonctions du reboisement est corrompu. Vous allez voir qu'une fois qu'il a 1000 francs, 2000 francs, il fait taire les dossiers et puis il passe. Vous voyez que l'impunité aussi et la corruption font que les mesures contraignantes ne soient pas appliquées avec rigueur. Qu'à cela ne tienne, M. Tati, je m'en vais directement proposer à M. André Diamba, qui est votre invité, une petite question. Mm-hmm. La première, pensez-vous qu'avec tous ces changements climatiques, soit un défi majeur pour les climatologues et les géographes d'échanger les théories et les principes scientifiques ad hoc? Ça, c'est la première question. La deuxième question, au niveau du gouvernement, quel est l'impact des fonds qui ont été alloués à la RDC depuis la COP 21 qui a été, dans les années passées en France, il y a eu des frais qui ont été alloués à la RDC. Où sont passés ces frais-là et quel est leur impact jusqu'à maintenant? Je vous dis merci.
Merci beaucoup, s'il vous plaît, Marcel Didier, s'il vous plaît, je veux juste avoir une idée sur, est-ce que au niveau de la cité de Luisa, quelle est la source d'énergie la plus utilisée dans la cuisson, dans les différents ménages? Est-ce que c'est le bois de chauffe ou le charbon de bois?
D'ailleurs, c'est les deux, le charbon et les bois de chauffe, qui font à ce que les gens même puissent déboiser en désordre. Il y a des braises, la fabrication des braises, les gens font course à l'argent. Et pourtant, il n'y a pas reboisement. C'est aussi un impact négatif sur l'environnement du territoire de l'île de chez moi.
Est-ce que localement, il n'y a pas des ONG qui font la promotion des foyers améliorés, par exemple, pour décourager, en fait, pour réduire l'utilisation des charbons des bois, de la braise?
Et même si, M. Tati, ces ONG peuvent exister, est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement? C'est ce qui manque. Il n'y a pas de mesures d'accompagnement pour accompagner ces ONG à pouvoir tangibiliser leur démarche, de sorte que la population des villes puisse émerger dans cette problématique de l'environnement, M. Tati.
Merci beaucoup, M. Martel. Merci beaucoup, M. Martel. Je rappelle que vous intervenez depuis la ville de Luisa directement. André Djamba, que dites-vous à M. Martel Didier avant de répondre à la question des Kachai?
Ok, merci beaucoup pour toutes ces interventions intéressantes, parce que je vous dis,
c'est les reflets de la réalité.
Ce n'est pas répondre des théories, ainsi de suite. Je voulais d'abord dire que le changement climatique a effectivement impacté beaucoup des principes géographiques aujourd'hui. Si on a aujourd'hui la technologie avancée dans la télédétection, où on gère des forêts, on commence à observer les forêts à partir des satellites, c'était des technologies qui étaient plus utilisées pour des raisons de guerre et tout ça. Maintenant, on a transformé ça vers le changement climatique.
Marcel Didier voulait avoir une idée sur la contribution des spécialistes, géographes, environnementalistes, dans la lutte contre le changement climatique, parce que c'est déjà une réalité que nous vivons.
Oui, mais parce que le changement climatique, c'est un concept transversal. Ce n'est pas réservé à une classe donnée. Donc, tout le monde est invité. Les juristes, l'économiste, moi, mon background, c'est pas informatique, moi, je suis financier international. Donc, cela signifie que C'est pas un aspect qui concerne seulement une catégorie de gens. Pour les problèmes des accords de Paris, je dois vraiment parler.
Vous voulez avoir une idée sur les actions concrètes qui sont menées sur terre, réalisées sur terre?
Non, le problème, c'est quoi? C'est que les gens ont peut-être, suite à la publicité qui était faite autour de la COP21, les gens ont cru que les pays sont allés se partager l'argent à Paris. Non. C'était plutôt qu'on signe un accord qui voulait faire entrer maintenant le monde dans une ère nouvelle en matière de négociation climatique. C'est peut-être à la COP25 ici où on va, qu'on va commencer à parler maintenant des actions. Vous comprenez? Depuis les accords de Paris, ce n'est qu'à la COP25 qu'on va parler des actions. Même le sommet qui a eu lieu à New York cette année, c'était quoi? Le sommet des actions.
Et quel est le plaidoyer que vous allez mener pour le compte de la RDC?
Bon, vous savez, aujourd'hui, je ne vais pas vous dire quel est le problème que vous venez pour le compte de la RDC. Les relations climatiques sont faites de telle sorte que on va en groupe de pays. On va en groupe. Nous sommes membres de COMESA, on doit avoir des points de vue communs, on est dans les groupes de 77, plus la Chine, on est dans les États de l'Afrique de l'Est, on est dans les États de l'Afrique centrale, et c'est là où je vous ai dit que c'est le moment pour nous, la RDC et les pays de l'Afrique centrale, de profiter de ce qui se passe au niveau de l'Amazonie. C'est vrai que nous pouvons prendre maintenant un leadership si on est organisé au niveau de la région. Et là, même au niveau des négociations internationales, on va commencer à peser.
Parce que même en termes de décaissement des fonds, l'Amazonie c'est le gros morceau.
Le gros morceau. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, ça me fait mal, mon frère, lorsque j'entends les gens de
l'arrière-pays
se plaindre sous l'accompagnement du gouvernement. C'est une réalité aujourd'hui. Il est important qu'on les accompagne. Moi, je suis tout à fait d'accord que nous ne puissions pas seulement avoir des yeux braqués sur les fonds internationaux. Parce qu'il y a quand même des stratégies pour que
mobiliser les ressources nationales au pays,
au niveau,
vous pour savez, le reboisement.
Oui, même les communes là. Chaque commune peut mobiliser. Pourquoi les communes ne peuvent pas mobiliser de petits fonds au niveau de chaque commune pour les problèmes locaux?
Je vais revenir à vous. Monsieur Idriss, vous avez suivi nos deux auditeurs qui ont intervenu depuis dans les Castaïs. Et pour les deux intervenants, en fait, c'est la coupe abusive des bois qui serait à la base du réchauffement climatique. Et j'ai posé la question d'ailleurs au deuxième auditeur pour savoir si ils utilisaient les énergies renouvelables. Il a dit même si ça existe, il n'y a pas une mesure d'encadrement de ces ONG-là qui travaillent dans la promotion des énergies renouvelables. Quel est votre commentaire à ce sujet?
C'est vraiment une réalité criante. Mais moi, je pense que au-delà de l'appui du gouvernement, nous avons un problème du civisme environnemental. La question de la déforestation, la question de l'environnement doit devenir une question culturelle. Il faudrait que les populations congolaises prennent conscience de la manière dont nous sommes en train d'utiliser nos forêts. Et c'est là où je suis en train de faire appel au gouvernement de la République d'appuyer les populations, de mettre en place un programme de sensibilisation sur la culture environnementale. Et pourquoi ne pas même intégrer des programmes de formation, un cours sur les civismes environnementaux, la culture environnementale. Dès lors que la population congolaise ne sera pas sensibilisée sur la culture du reboisement, même si on a des financements de tous ces organismes internationaux, même si on participe à des réunions internationales, mais il n'y aura pas d'impact. Mais imaginez-vous un pygmée, par exemple, qui a hérité une forêt de ses ancêtres et de ses parents, et vous l'amenez, par exemple, la loi sur la conservation de la forêt, mais ça sera très compliqué pour qu'il se retrouve. Mais par contre, si nous commençons par l'éducation des populations sur la culture du reboisement, donc ça sera pris en compte, ça sera considéré comme un site de vie, un mode de vie. Ce qui va faire que ça serait très compliqué pour que quelqu'un puisse couper un avocatier et gratuitement comme ça. Donc on doit d'abord commencer par sensibiliser la population, que la population prenne conscience que la présence d'un arbre a une grande importance dans la vie humaine. La deuxième des choses, vous avez posé la question de l'utilisation de foyers améliorés et tout. Il faut un accompagnement, ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que si nous voulons atténuer les effets des gaz les gaz à effet de serre, si nous voulons, parce qu'on ne peut pas éradiquer de nos jours, si on veut vraiment trouver une solution palliative à cette question, ça nécessite les efforts de tout le monde. Donc il y a les organismes qui sont là, tels que le Fonds vert, il y a le gouvernement, mais aussi la prise de conscience de cette population. Même ici à Kinshasa, quand vous regardez, et les gens, je vous donne un exemple, vous allez trouver quelqu'un qui mange un avocat, il vous dit c'est très bon, mais il va jeter le noyau. Il jette le noyau. Et pourtant, mais pourquoi ne pas utiliser ces noyaux? Vous voyez un peu, c'est une question d'éducation environnementale.
Oui.
C'est là où se pose le problème. Aujourd'hui, nous pouvons avoir le financement. On peut participer à toutes ces réunions. Mais si au niveau de la base, la population n'est pas sensibilisée, la population n'a pas encore pris conscience de l'importance de la forêt, de l'importance de l'arbre, moi je pense que ça serait très compliqué. Et même sur la question de l'utilisation des énergies renouvelables, aujourd'hui le pays a été focalisé que sur un seul secteur de l'hydroélectricité. Mais on se rend compte que ça ne marche pas aujourd'hui. Il y a des endroits où on ne peut pas arriver avec les câbles et avec les transports, et parce que ça coûte tellement très cher. Mais où on peut implanter des microcentrales solaires, on peut implanter des microcentrales éoliennes pour que la population soit desservie. Donc tout dépend de la manière dont nous sommes en train de le faire. C'est pourquoi je vous disais que le point de départ, c'est une question de culture. On doit implanter les civismes environnementaux au sein de la population congolaise, que ce soit pour ceux qui sont en arrière-plan ou ceux qui sont à Kinshasa. Aujourd'hui, on a plusieurs cadres légaux, cadres institutionnels. Oui, c'est bien bon. On prend des décisions à Kinshasa dans nos bureaux climatisés, mais sans pour autant associer ces gens qui sont victimes, même le premier victime même de ces réchauffements climatiques, sans pour autant associer ces gens qui sont en train de déboiser la forêt chaque jour. Donc ça serait très compliqué. Prenez l'exemple de la ville de Kikwit à 525 km de Kinshasa. C'est parmi les villes les plus, déboisées, parce que la ville de Kikwit alimente aujourd'hui 70% des charbons de bois qu'on utilise à Kinshasa,
oui.
Ça provient du Bandundu.
Oui.
Mais quels sont les mécanismes que l'État congolais met en place pour pouvoir aider ces populations? Parce qu'aujourd'hui, vous devez savoir, M. Tati, que c'est difficile d'interdire à ces gens-là de couper les arbres si on ne leur propose pas des méthodes, des solutions palliatives. Donc commençons d'abord par réfléchir qu'est-ce qu'on doit donner à ces populations avant de les interdire de couper de découper les arbres.
Monsieur Idriss, je rappelle. Oui, monsieur Idriss, oui. Je signale en même temps que vous êtes coordonnateur du club PV, qui est une plateforme qui regroupe des spécialistes qui travaillent dans le domaine de la promotion des énergies renouvelables. Est-ce que je peux avoir une idée sur les messages que vous allez porter à la prochaine rencontre COP25?
Bon, écoutez, le plus important pour nous, déjà, nous avons déjà commencé à nous sensibiliser, à sensibiliser tous les membres du Club PV, et surtout que le Club PV, c'est une plateforme panafricaine qui regroupe les professionnels de métiers dans les domaines d'énergie renouvelable. Nous, on est sur terrain. Le message que nous lançons, c'est d'aider nos populations à accéder aux énergies propres. Et nous sommes en train de nous battre, et là nous sollicitons même l'appui du gouvernement congolais, pourquoi ne pas exonérer, par exemple, les équipements dans le secteur des énergies propres. Aujourd'hui, les panneaux solaires, il est trop cher. Pourquoi? Parce que vous achetez un panneau, par exemple en Chine, le watt crête à 0,5$. Mais vous arrivez ici avec la douane et tout, le prix devient très important. Dès lors que ces énergies, ça sera très cher. Ça sera aussi une faiblesse, une contrainte pour que cette population puisse accéder. Et donc, le message que nous sommes en train de nous conscientiser, mais en même temps, nous sommes en train de contacter les institutions de la République pour qu'ils puissent voir dans quelle mesure où ils peuvent exonérer, par exemple, l'importation de tous ces équipements utilisés en énergie renouvelable. Les cas de la République du Rwanda, l'Ouganda et tout. Et c'est ce qui fait que ces pays sont en train d'avancer. Et donc, voilà en bref le petit message. Et d'ailleurs, la journée de demain, nous avons un carnaval intitulé Carnaval
Zéro Fossile.
À vélo, que nous allons commencer au niveau de l'esplanade du Palais du Peuple jusqu'au niveau de du jardin zoologique de Kinshasa. C'est une manière aussi de sensibiliser la population de la ville de Kinshasa pour dire, écoutez, les conditions de vie sont très difficiles, mais nous devons nous battre pour léguer un héritage environnemental meilleur pour des générations futures, parce que nous allons partir. Mais qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants et demain?
Monsieur Idriss, je vous prie de rester en ligne. Nous allons retourner au standard pour donner la parole aux intervenants qui appellent, à deux intervenants d'ailleurs qui appellent de la même ville, depuis la ville de Bandundu. Si vous êtes intéressé par cette thématique, n'hésitez pas à nous appeler pour intervenir en direct au numéro 099-706-63-94, au numéro 081-890-63-94.
Je suis Madame Benaka Bamba Laetitia, commissaire générale en charge des affaires sociales, genre, famille et personnes vulnérables dans la ville-province de Kinshasa. Kinoises et Kinois, Kinshasa Bopeto n'est pas un slogan. Kinshasa Bopeto est un programme, un état d'esprit, une philosophie de vie qui renvoie à un être nouveau. En effet, rien ne peut justifier les violences sexuelles faites aux femmes, aux petits-enfants et aux jeunes filles. En conséquent, rien ne devrait innocenter l'auteur d'un viol. Vrai Kinoa Azali Moto Oyo Azwaka Mwasi Namakasite, Alandarape Banamikete. Aucune violence faite à la femme et à l'enfant ne peut être justifiée ni tolérée. Toute forme de violence doit être condamné. Kinshasa dit non, non, non aux violences faites aux femmes. Ensemble pour la dignité de la femme et de la jeune fille. Appelez le 116, un numéro vert et gratuit pour dénoncer toute forme de violence sur la femme, la jeune fille et les petits-enfants. Benga 116 est un numéro yaofele pour nakofunda. Violence nyonso bakosala na mwasi, na elenge mwasi, pe na mwana nyonso yamoke.
Ceci est un message du Commissariat Général des Affaires Sociales, Genre, Familles et Personnes Vulnérables, à l'occasion de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes.
Donnons cette fois-ci la parole à Jureste Emaka, il intervient depuis la ville de Bandundu. Monsieur Jureste, bienvenue dans Okapi Service.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la parole. Je vous salue, vous ainsi que l'ensemble de votre équipe, hein, et ceux qui sont à la réalisation. Je n'ai pas suivi en totalité votre invité, mais sinon, je l'ai senti, c'est un environnementaliste aguerri. Alors, si vous permettez, je m'irai avec votre invité que nous puissions parler des désordres climatiques au lieu de pouvoir parler des changements climatiques. Parce que lorsque nous parlons des changements climatiques, c'est comme si nous voulons atténuer le fait ou les conséquences des changements climatiques sur l'environnement. Et ça, c'était une parenthèse. Alors, nous devons aussi comprendre que l'homme doit vivre, plutôt, la vie de l'homme dépend essentiellement de l'exploitation des ressources naturelles. Mais malheureusement, l'homme fait une exploitation irrationnelle, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous vivons beaucoup de conséquences qui sont engendrées par cette exploitation irrationnelle. Voilà pourquoi aujourd'hui nous parlons des désordres climatiques. Pour répondre à votre question, moi je dirais ceci. Nous devons changer nos habitudes de vie et que chaque acte que nous posons, nous devons empêcher les conséquences sur l'environnement. Alors, sans le changement que nous devons apporter, moi je vais sur le secteur de l'industrie. Je me souviens quand nous étions à l'école primaire, nous avions des cahiers, sur les couvertures desquels. Et vous verrez les images des animaux ainsi que des arbres. Ce qui était une façon de pouvoir présenter la richesse de notre faune et de notre flore, ainsi que de pouvoir sensibiliser la population, la jeune population, sur la valeur de nos richesses naturelles. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous achetez les cahiers pour les enfants, vous remarquez que sur les couvertures, on met la photo de Ronaldinho, on met la photo de Messi. Alors, ce qui change totalement la vision de la jeunesse aujourd'hui sur l'environnement. Nous devons revenir sur certaines habitudes qui étaient très importantes, comme je viens de l'évoquer dans le secteur de l'industrie et en rapport avec l'imprimerie. Donc, pour ne pas prendre la parole, en tout cas, je m'arrête là. Le sujet est très, très, très intéressant et très vaste. Merci
beaucoup. Merci beaucoup, Jurès. Vous parlez plutôt, au lieu de parler, vous suggérez au fait que nous puissions plutôt faire allusion au désordre climatique au lieu de parler du changement climatique. Et puis, vous décriez le fait que sur les couvertures des cahiers, par le passé, on mettait certains animaux, le zèbre par exemple, pour déjà initier les enfants à l'éducation environnementale, à la protection de l'environnement. Merci pour votre suggestion et complément d'idées dans cette émission. Restons dans la même ville pour donner la parole à M. Glody. Bonjour.
Bonjour M. Tati, bonjour également à l'invité. Je m'excuse, il plaît ici à Bandundu parce qu'il y a des bruits.
La liaison est bonne, il n'y a pas de souci, allez-y.
Oui, oui. Merci beaucoup pour l'accorder, monsieur le journaliste. Vous savez bien qu'en République démocratique du Congo, nous n'avons pas vraiment les mentalités de respecter la forêt. Autrement dit, de trouver tout ce qui était naturel, autrement dit, la faune et la flore. Donc, nous n'avons pas cette mentalité-là. Vous allez te rendre compte que les gens exploitent de la forêt dans une manière qu'on ne peut pas exploiter. Donc, les gens sont là en train de détruire la forêt elle-même. Et quand ils détruisent la forêt comme ça, il revient encore au gouvernement. Au gouvernement, si vous pouvez nous aider à cette
Glody, Glody, s'il vous plaît. Glody, Glody, dites-nous, quelles sont les pratiques qui ne sont pas bonnes, hein, concernant la préservation de la forêt dans Bandundu-Ville? Quelles sont les pratiques qui sont généralement recourues par la population?
Oui, merci beaucoup. Ici, il y a vraiment des pratiques d'exploitation de bois de charbon. C'est vraiment impossible. Vous allez se rendre compte qu'en plein centre-ville de la ville de Bandundu, il y a même des arbres de manguer et coupés par des boulangeries qui utilisent leur business. Alors, nous traversons des problèmes un peu sérieux dans la ville. Vous allez se rendre compte que la ville de Bandundu, il y a vraiment la chaleur impossible. Depuis la belle époque, ce n'était pas comme ça, mais aujourd'hui, le tout a changé. Alors, c'est un problème de sensibilisation. Je passe directement aux questions que je peux poser à notre invité.
Allez-y rapidement.
Je sais que notre invité peut nous aider à proposer des pistes de solutions au niveau gouvernement central et on peut trouver des solutions afin d'éradiquer ces problèmes. Parce que ces problèmes ici ne dérangent pas rien que Bandundu. Ça dérange toute la République démocratique du Congo. Alors lui, il peut faire un plan national. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour éradiquer ces problèmes? Je crois que j'ai voulu juste poser cette question. Je dis et je vous remercie.
Merci beaucoup, M. André Djamba. Nos deux auditeurs, il y a Jireste qui parle plutôt du désordre climatique.
Ouais, je crois que le désordre climatique, oui, c'est un concept qui est déjà utilisé, mais on l'utilise lorsque des événements qui arrivent de façon irrégulière. Mais pourquoi on parle du changement climatique? Là, je ne peux pas aller dans les théories internationales. on parle de changement climatique lorsque ces phénomènes-là durent pendant un temps long.
Lorsqu'ils persistent,
persistent 5, 10 ans, ça devient un problème de changement climatique. Donc les deux concepts sont utilisés, et il n'a pas tort, mais on peut voir un phénomène qui arrive dans un coin pendant 2 ans, on peut parler de certains désordres, mais si ça fait 5 ans, 10 ans, on dit non, ça devient un changement climatique, il faut maintenant des mesures un peu plus profonde pour changer ce phénomène-là.
Et dans les volets d'éducation environnementale, il regrette le fait que certaines illustrations d'animaux n'existent plus sur les cahiers.
Vous savez, j'ai participé en 2012 à une grande réunion de Tbilissi, en 2012, sur les réponses de la RDC. C'est la ville où, la première fois, le concept d'éducation environnementale a été lancé, à Tbilissi, en Géorgie. Et je suis allé participer à la 35e année pour fêter cet événement, et j'ai même amené la déclaration de Tbilissi ici au pays pour qu'on mette ça dans l'éducation. Mais jusqu'aujourd'hui, rien n'est fait. La déclaration existe, mais on ne l'applique pas. Donc cela signifie que je suis d'accord avec lui, parce qu'il ne faut pas investir, comme tu dis là, il faut investir sur les enfants. Nous, vous savez, on a déjà une mentalité. Nos ancêtres ont bien géré les forêts. C'est peut-être notre génération là qui est venue dans une situation un peu compliquée.
Tout chamboulé.
Adopter les choses des Occidentaux. Alors que nos parents ont géré, nos arrière-grands-parents ont géré les forêts de façon naturelle. Et c'est nous qui sommes venus avec toutes ces théories-là. Donc on peut profiter de ça pour effectivement donner l'éducation de base, déjà dès l'école maternelle. Beaucoup de pays le font.
Il y a Glody qui a décrié le fait de couper des bois pour la fabrication des pays. Il y a des boulangeries qui recourent à la coupe désordonnée des bois au niveau de la ville de Bandundu.
Ça, c'est un problème d'administration. Parce que je vous dis sincèrement que tant qu'on ne va pas organiser l'administration d'abord, de façon générale, ça sera difficile. Parce qu'il y a des territoires là où il y a les chefs de territoire qui sont là, qui sont censés faire appliquer la loi. Et je ne veux pas citer les noms. Il y a un ministre de l'Environnement de l'époque qui est allé faire sa tournée à l'intérieur. Il a vu derrière la maison du chef de territoire des bois coupés en train d'être. Donc, vous comprenez un peu. Donc, c'est les gens qui sont censés faire appliquer la loi, lorsqu'ils ne le font pas, ça ne peut pas les gérer.
Monsieur Edric, en tout cas, je rappelle que vous êtes spécialiste en énergie nouvelle et renouvelable. Pensez-vous vraiment que la promotion ou l'intégration des foyers améliorés, des panneaux solaires dans les ménages, pourrait contribuer grandement à la lutte contre les changements climatiques en RDC?
Exactement, Monsieur Tati. C'est l'une des solutions qu'il faudrait utiliser aujourd'hui pour participer à cette lutte. Donc, c'est vraiment indispensable.
Vous investissez dans le secteur, et quels sont les efforts qui sont fournis au niveau de votre club PVV, et est-ce que les gens adhèrent facilement à votre démarche?
Oui, mais je vous ai dit que nous, on est en contact direct avec des populations. Aujourd'hui, si vous parcourez toutes les provinces de la RDC, vous allez constater que la plupart de ménages, et à l'époque, les gens utilisaient plus de groupes électrogènes, mais aujourd'hui, vous allez voir que la plupart des ménages ont un petit panneau solaire. Et donc, pour nous, c'est déjà un signal fort. Il y a des écoles qui sont électrifiées aujourd'hui avec de l'énergie solaire. Et je vous informe que si vous allez maintenant là à Goma, il y a une centrale solaire de 1,5 MW qui est en pleine implantation. Donc pour nous pensons que les choses sont en train d'évoluer, mais ça sera vraiment très avantageux si le gouvernement pouvait mettre son appui. C'est pourquoi j'ai parlé actuellement qu'il faudrait réviser la loi 14-011 qui régit le secteur de l'électricité. Elle a été élaborée uniquement pour l'hydroélectricité. Alors, ce qui fait que les énergies renouvelables, en fait, c'est vrai que l'hydroélectricité fait partie des énergies renouvelables, mais les autres énergies n'étant pas prises en compte dans cette loi, à un moment donné, ça serait une contrainte pour que la population puisse accéder à ces énergies, où le gouvernement sera habité de ne pas appuyer les grands projets dans les secteurs de ces énergies renouvelables. Mais moi, je pense que les indicateurs sont déjà bons. si aujourd'hui on arrive à casser les prix, si aujourd'hui on arrive à mettre l'accent sur la bonne qualité de ces équipements, parce qu'il y a aussi une question qu'il faudrait savoir, par exemple avec les panneaux solaires, les marchés congolais est inondé avec la mauvaise qualité. Mmh. Alors imaginez-vous quelqu'un qui achète un panneau solaire aujourd'hui pour se servir, mais il se rend compte que ça ne résout pas les problèmes. Directement, il va communiquer à une autre personne. Donc il y a aussi la question de la mauvaise qualité, la contrefaçon qui ronge aussi les marchés congolais. Mmh. Et je pense que l'État congolais pourra prendre des mesures adéquates dans les jours à venir pour pouvoir remédier à cette question.
Monsieur Idriss Mpouka, je rappelle que vous êtes spécialiste en énergie nouvelle et renouvelable. Merci d'avoir été avec nous. Nous allons chuter avec vous, Monsieur André Djamba. Oui. Vous avez un dernier mot à dire aux auditeurs de Radio Capi.
Je voudrais rapidement dire à Monsieur
Idriss Mpouka.
Je l'encourage qu'il vienne vers nous. On a fait ça avec les groupes Essor. Peut-être tu connais les groupes Essor.
Oui, je connais. Oui.
C'est eux qui sont venus vers nous et on a fait tout et le projet de 89 millions est passé.
Et déjà l'année prochaine, vous allez lancer le projet.
Oui, oui.
Donc ils doivent venir, vous approcher.
Ils doivent nous approcher parce qu'ils sont déjà sur terrain. C'est un grand acquis qu'on peut aller maintenant avec eux, avec des capitaux un peu plus élevés à un niveau national.
Un appel à lancer l'intention de la population congolaise qui nous suit en ce moment concernant les effets de changement climatique et quels sont les quelques actes à poser pour préserver au fait ces phénomènes de changement climatique.
L'éco-citoyenneté, c'est la plus grande chose qu'il faut recommander. Et ce n'est qu'à travers l'éducation.
L'éducation environnementale. Nous devons également poser des bonnes pratiques.
Effectivement. Et parce que vous savez l'histoire des Congolais qui ont un microbe, tout ça. Il y a des théories qui existent ainsi de suite. Alors que ce qui est vrai, c'est que nous nous détruisons nous-mêmes. Aujourd'hui, si les gens ont beaucoup de maladies, là, de l'eau mal propre, ainsi de suite, c'est parce qu'on a des théories là, on néglige notre contexte national, là où nous vivons notre environnement.
Merci beaucoup Hans. André Djamba, je rappelle que vous êtes coordonnateur du Fonds vert pour le climat en RDC. Merci d'avoir été avec Okapi Service. À la fois prochaine.
Merci beaucoup.